Je prendrai plus le temps cet après-midi, effectivement, dans l'introduction de cette pièce qui tourne toujours, d'ailleurs, dans la création qui a été créée en 2007 et qui est en français, contrairement à son titre, Bloody Niggers. C'est une pièce que j'ai écrite, en fait, en 2007, hein, donc, mais qui porte sur plusieurs thèmes, en fait, sur la colonisation, mais aussi sur le rôle vraiment de la politique actuelle, justement, du libéralisme, et surtout sur les crimes de masse. C'est comme une épopée un peu macabre, justement, sur 4 siècles, et qui se termine avec une dernière partie au Rwanda, parce que je suis rwandais, effectivement, donc c'est quelque chose où je voulais un petit peu retrouver une généalogie de ce qui s'est passé un peu dans ce petit pays. Et la partie que je vous lis est une partie consacrée dans cette longue épopée, en fait, qui est consacrée à l'Afrique. C'est, ça arrive un petit peu aux 3/4, en fait, de la pièce. Mais cet après-midi, je prendrai le temps de projeter un petit peu le début aussi, mais celle-ci est consacrée à l'Afrique et porte le titre de Bissonabisso, qui est un mot dans la langue du Lingala qui veut dire « nous » et « nous-mêmes ». Un soleil a pâli. Le soleil radieux des indépendances. Nous avions rêvé qu'il nous réchauffe et nous console. Quelle magnifique retrouvaille sous un ciel redevenu clément, libre, autonome, maître de notre destin. L'Afrique retrouvait son âme et la douceur des tropiques, le tumulte des marchés, les veillées et les chants pastoraux, la flûte du pâtre qui s'attarde loin, les tambours de la fête qui tonnent soudain au milieu des cases de chaume où mènent des sentiers bleuis par la lune. Enfin débarrassés de ces chiens de colons. Entre nous, entre frères, Bissonabisso, entre frères d'infortune et de sang. L'Afrique des griots et des guerriers, aux 1000 senteurs et 1000 saveurs, berceau de l'humanité, mère de la civilisation, terre des pharaons, des murailles de Zimbabwe, de l'empire mandingue, de Chaka, l'empereur Zoulou. Et le lièvre chantait tant et tant de louanges aux corbeaux. Doucereuse musique qui flattait notre âme meurtrie. Que vous êtes radieux sous ces pagnes fleuries. Oh, quel port de prince, mon ami! Mise en scène, l'Afrique se mit à danser. Les Dogons sont magiques, ils sont le sel de la terre. Les Maasai sont vaillants, voyez comme ils sont fiers. Les Zoulous sont redoutables, ils ont vaincu les Anglais. Les Peuls sont très beaux, c'est un peuple céleste. Caressée, l'Afrique dégrafa ses jupes. Étreinte, elle souleva la cuisse pour montrer sa lune. Contemplez, je suis le phénix de ces bois. Poison sirupeux, fruit gorgé de venin tombé de la lippe du colon. Pendant qu'on la crucifie à gros rivets, l'Afrique tripote ses plaies. Les Bambaras sont ceci, les Touaregs sont cela, les Toucouleurs sont ceci, les Wolofs sont cela, les Bamileke sont ceci, les Agawa sont cela. Nous, nous sommes comme ceci, eux, ah, ils sont comme cela. Les Kikuyu sont ceci, les Tutsis sont cela, les Tchouana sont ceci, les Pygmées sont cela, les Tchona sont ceci, les Dinka sont cela, les Hutus sont ceci, les Nuba sont cela, les Batwa sont ceci, les Afar sont cela, les Basuto sont, les Baluba sont, les Danakil sont, les Matabele sont, les Himba sont, les Issa sont, les Luo sont, les Bet sont, les Mossissons, les Mboutissons, les Xossassons, les Goransons, les Ngurusissons, les Turkanassons, les Kalandjins sont ceci, les Karamajong sont cela, les Wanyamwezissons, les Wanyankolesons, les Wanyamoresons, les Watorosons, les Wachorisons, les Soninke, les Salankore, les Samburu, les Sukuma, les Sorel, les Somali, les Serer, les ceci, les cela. L'Afrique est une constellation d'injures. Comme des chiens, nous continuons à laper cette science de curer, à planter nos cerveaux poubelles que nous avons commis à la triste tâche de ressucer le vomi colonial. Quand on a tout perdu, écrit Stefan Zweig, on lutte comme un désespéré pour sauver les restes suprêmes. Qu'avons-nous à être ceci ou cela? Qu'il nous suffise d'être unis? Quand notre âme s'échappe des mailles du clan, c'est pour embrasser le mirage de la race. Black is beautiful. Quelle connerie. Jamais aucun prisonnier ne s'est autant attaché au mur étroit de sa cellule. Asphyxié, nous nous jetons dans les flammes. Écorchés vivants, nous nous réfugions dans les ronces. Qu'avons-nous à être beaux? Qu'avons-nous à être noirs? Les Chinois sont-ils jaunes? Voici un leurre, un bon, un vrai. Tenez, un black d'un beau noir, de la tribu truc du clan machin. Tenez, pour calmer votre angoisse, peuple dévot, le prince Bamboula, son chef et sa fourchette. Bokassa sur son trône impérial, Mobutu et sa toque de matou, Idi Amin sur sa chaise à porteur, qu'il vous frappe d'autant plus durement qu'il est l'envoyé de votre dieu, l'ethnie, la tribu, la race. Le soleil lève désormais son index sous la nuit de nos songes pour fondre nos idoles. Le bateau coule à pic, les plus hardis se jettent à la mer, l'Afrique se vide. Bamboula s'est assis dans le fauteuil de son père. Comme il est noir, Bamboula, nous avons cru qu'il est des nôtres, alors que c'est un colon. Un pur produit de la colonie, Bamboula. Aussi collant que son colon de père, parachuté par son long colon de père pour gérer sa colonie. Comme son maître, il fredonne un air candide. C'est une flûte qui charme et qui chante beaucoup. Comme son maître, il manie le fouet et le mousquet. Comme son maître, il vide l'Afrique pour garnir l'Europe. Comme son maître, il règne par la terreur, en opprimant le peuple, qu'il affame, qu'il spolie, qu'il pille, qu'il massacre allègrement pour le bénéfice de son maître au loin, loin des rivages africains. Comme il est de notre ethnie, qu'il soumet les clans rivaux, il a toujours su, Bamboula, qu'il pouvait compter sur nous. Son maître aussi a toujours su qu'il pouvait compter sur nous, friand que nous sommes de tout ce qui nous distingue. Fruits venimeux, poisons sirupeux, nous continuons comme des chiens à laper notre mort. Après avoir vendu ses frères aux trafiquants d'esclaves, l'homme africain à leurs bras aux enchères, ce qui lui reste de son âme étriquée. Oyez, nobles gens, pour d'ultimes pacotilles. À vrai dire, nous n'avons jamais eu besoin de personne pour nous pendre pique-mangue sur les arbres. Ni des blancs, ni des verts, ni des mauves, tout seuls, bisson à bisson. C'est à se demander pourquoi les Européens sont venus nous tuer à notre place. Nous le faisions si bien avant qu'ils n'arrivent. Nous tuons autant qu'eux depuis leur départ. N'avaient-ils pas mieux à faire, ces Blancs, que de porter le poids de notre culpabilité? Rien à faire d'autre que de nous exonérer de nos crimes, de nous donner l'illusion d'avoir toujours été des victimes, victimes de la maternité à la tombe, tous, victimes des trafiquants d'armes, victimes les proxénètes et les négriers, victimes les vendeurs d'aliments avariés, victimes les bradeurs de pétrole à bas prix, victimes les poètes, mendiants et perroquets, victimes les importateurs de déchets toxiques, victimes les dirigeants décrépits et lèche-bottes, victimes les fonctionnaires pédants et corrompus, victimes les banquiers véreux et anthropophages, victimes les distributeurs de médicaments périmés, victimes les bandes armées qui mutilent, qui violent, qui tuent, victime le petit peuple, sa bêtise crasse, sa mesquinerie, ses lâchetés, ses trahisons de tous les jours qui rendent la tâche facile à tous les criminels. Victime tous ces bourreaux de toujours, collabos sous tous les jours. Non, vraiment, pourquoi les Européens sont-ils venus nous tyranniser, nous qui avions sur place des tyrans compétents? Fleurons de tout un continent, ce que nous produisons de mieux toute saison. Caporose à moustache, sergent-major en babouche, colonel pète sec, généraux 4 étoiles qui n'ont gagné aucune guerre, mais qui mieux que quiconque savent comment écraser les masses, qui bon an, mal an, depuis 40 douloureuses années, remportent de mémorables et sanglantes victoires sur tout ce que l'Afrique compte de forces vives. Non, voilà, c'est ainsi. Du développement, nous n'en voulons point. C'est une résolution définitive et mûrement réfléchie. Tout compte fait, nous n'avons rien à cirer du progrès, bastaya. Nous avons décidé de nous en empêcher par tous les moyens. Rien à faire. Non, non, non. Vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez. Non, non, non. Vous n'arriverez pas à nous convaincre. Même sous la torture, nous ne céderons à personne la dernière place. Et quoi? Qui a dit que la misère était triste? Mais c'est très drôle, la misère. On se fend la poire du matin au soir, on se gondole de tant mieux que le ventre est creux. Vive la scole et les tripots nocturnes, vive l'insouciance et les villes interlopes, vive les prédicateurs allumés crétinisants, vive les magouilles et les combinants tout genre, vive le tribalisme et la xénophobie, vive le patriotisme imbécile, vive la rwandité, vive la sud-africanité, vive la gabonité, vive la burundité, vive la congolité, vive l'ivoirité, vive la débilité mentale. Oh oui! Il peut dormir tranquille, le basse. Nous gardons sa boutique pour lui. Nous sommes les gardiens de la conférence de Berlin, pacte canin conclu entre les loups pour nous dépecer. C'est tracé, que personne ne bouge, le maître il l'a dit. Nous sommes les zélotes des accords de Bretton Woods, pacte avec le diable conclu entre les banquiers pour nous déposséder. Nous sommes les zélateurs des accords marchands de l'OMC, pacte glouton conclu entre les ogres pour nous manger tout cru. « We must unite or perish. Nous devons nous unir ou périr », disait Nkrumah, le pauvre. Nous ne sommes pas unis. De quoi nous plaignons-nous? Nous qui n'opposerons jamais à nos ennemis un bloc unique et imprenable, de quoi nous plaignons-nous? Nous qui ne serons jamais ni la Chine, ni l'Inde, ni le Brésil, de quoi nous plaignons-nous? Nous qui ne serons jamais les États-Unis d'Afrique. Jamais! Car nous ne le permettrons jamais, friant que nous sommes de tout ce qui nous distingue, de tout ce qui nous sépare, de tout ce qui nous tue, ayant choisi pour toujours d'être l'Afrique des Bantoustans, l'Afrique morcelée des paddocks et des ethnies, précarée d'intérêts ennemis, l'Afrique dépotoir, l'Afrique vomitorium, l'Afrique défouloir, l'Afrique punching ball, l'Afrique descente de lit, l'Afrique tapis de bain, l'Afrique poubelle. Sur ces terres brûlées, où tout se négocie, où l'on privatise à tour de bras, les hommes passent de main en main, d'un maître à l'autre. On se marchande, on s'offre même avec une candeur touchante. Tenez, voici moi avec femme et enfants, avec toute ma tribu pour vous servir, Boana. Servez-vous, c'est gratuit. Comme les maîtres changent d'amour en désamour au gré des gains, l'Afrique danse. C'est la Pâque tous les jours. Au son des orgues, on vendange toute saison. Les familles trinquent. Le sang coule à flot dans les sillons. On meurt en masse entre les travées. Beaucoup. Passionnément. Pour la France. Pour la francophonie. Pour le Mahdi. Pour le Messie. Pour l'étendard du prophète. Pour le FMI. Pour l'économie de marché. Qui mourra pour l'Afrique?
Bon, alors, ce qu'on va entendre aujourd'hui, ce sont trois textes qu'on a intégrés ou qu'on va intégrer dans nos spectacles qu'on a commencé à monter. C'est le spectacle intitulé « La blessure ou la plaie et la joie » qu'on a commencé, en fait, à préparer juste avant la Révolution. On a été complètement choqués par les événements de l'église à Alexandrie, et on a commencé à préparer un spectacle pour réagir à cela, et on est allé jouer ça à Alexandrie le 27 janvier sans savoir vraiment qu'il y avait une révolution. Je veux dire, ça a commencé le 25, mais on n'était pas encore conscient vraiment de ce qui se passait. Et on a arrivé à Alexandrie, j'ai dû appeler la troupe pour ne pas, pour revenir rebrousser chemin, parce que déjà les émeutes avaient commencé d'une façon dramatique à Alexandrie. Il allait avoir un sit-in devant le théâtre où on devait donner ce spectacle et qui appartenait en fait à l'État. Voilà, donc de ce spectacle qui change tout le temps, parce qu'en fait c'est un mélange Eloach a beaucoup travaillé sur l'art de raconter. On est connu dans le monde arabe pour avoir fait travailler les acteurs, tous nos acteurs sur le conte, sur, ils sont devenus conteurs de théâtre. Et donc il y a des textes racontés, mais il y a aussi beaucoup de chansons qui viennent de poètes satiriques, de grands chanteurs comme Cheikh Emem, mais aussi de tous les groupes qui sont en train de naître en Égypte aujourd'hui, avec des poètes très forts. La poésie, ce qu'il y a de plus fort dans les arts de la parole en ce moment en Égypte, et on va entendre un poème traduit. Donc comme on ne recule devant aucun sacrifice, j'ai demandé à mes amis de traduire et de lire. Ils ne font pas partie de El Warsha, mais on collabore depuis des années sur des projets différents. Et donc on va commencer par un conte, une histoire, une sorte de parabole qui a été écrite avant la Révolution et qui devait se tourner dans les locaux de El Warsha comme film. Et la réalisatrice, qui est une photographe internationale connue, égyptienne, qui s'appelle Hal Al-Koussi, aller tourner ça avec un de nos anciens acteurs dans les locaux de El Warsha, avec un public qui aurait accepté de rester les 4 heures du tournage parce qu'elle allait le tourner un peu comme un film. Et le jour sur lequel on s'était mis d'accord, c'était le 11 février et on était en plein dans la Révolution. Elle n'a pas pu tourner et moi j'avais envie de travailler sur ce texte après qu'elle ait fait son film. Elle m'a dit, mais pourquoi tu attendrais, vas-y, travaille avec tes acteurs. Et depuis, il y a plusieurs acteurs qui l'ont appris et travaillé. Et là, j'ai demandé à Pierre Fourny du groupe Alice, qui n'est pas un groupe de théâtre, mais un groupe de théâtre d'objets, enfin de lire ce texte qui s'appelle La passion des pigeons, et que Nabil Boutros a traduit pour que je le travaille à Marseille avec les gens de la compagnie de l'entreprise. François Cervantes, une des actrices là-bas, avait travaillé pour le montrer simplement à ses collègues, parce qu'on a un projet en commun entre Marseille et Le Caire.
La passion des pigeons. Jeudi dernier, il y avait le mariage de Mustapha, le mécanicien, avec Anna, la fille d'Abou Sri, le boulanger. La totale, la grande tante, la musique, le chant, la danseuse, les pourboires, la bière, le hach et la viande. Des pétards, des pistolets et les balles perdues ne manquaient pas. Mahmoud, le borgne, a eu l'œil crevé quand il était jeune au mariage du fils des voisins. Cette nuit, avec la miséricorde de Dieu, il n'y a pas eu d'œil crevé. Mais une balle perdue a touché un pigeon qui crêchait dans un eucalyptus. Le lendemain matin, Saber, le facteur, marchant de sa maison vers la mosquée pour la prière du vendredi, a trouvé le pigeon mort par terre. Ils se mettent en devoir de le mettre de côté pour que personne ne marche dessus. Une bonne action, pense-t-il, lorsqu'il voit attaché à sa patte un petit tube avec un papier à cigarette plein d'écritures. Les signes étaient petits et les mots incompréhensibles, comme codés. Saber prend peur qu'on le voie avec cette chose, alors il la jette dans le premier tas d'ordures qu'il croise. Le soir, après le travail, il dîne avec Hanouma, sa femme, et lui raconte l'histoire du pigeon et de la lettre codée. Hanouma est terrorisée à l'idée qu'il ait pu garder le papier. Il la rassure. « Je l'ai jeté, lui dit-il. Quelqu'un t'a vu ?»« Il ne semble pas. » Les enfants dormaient à côté d'eux, mais l'aîné, Hassan, ne dormait pas. Il faisait semblant. Samedi matin, Hassan part à l'école, le ventre creux. À la récré, il dit à Sayed, son copain, « Donne-moi un bout de ton sandwich et je te raconte une belle histoire. » Hassan raconte l'histoire de son père, du pigeon et du message. Et il en rajoute un peu. Il dit à Sayed, « Mon père travaille à la poste et il s'y connaît en codage et il a pu déchiffrer le contenu du message. » Sayed lui demande alors ce qu'il y avait d'écrit. « Alors ça, je peux rien dire. Mon père me tuerait, lui répond Hassan. » Sayed, en rentrant de l'école, raconte à son père, à toi, l'histoire de Hassan, le fils de Saber, le facteur. À toi, travaille comme garçon de café, mais il est aussi indique. À toi, père de Sayel, laisse le café en plan et file au poste prévenir le sergent. Le sergent, le Taoué, prévient l'officier de garde. L'officier de garde envoie chercher Saber chez lui. Lorsque le fourgon arrive à son domicile, Saber demande pourquoi il est convoqué. Les policiers le giflent devant sa femme, Hanouma. Saber maudit Hanouma, sa langue bien pendue, et jure le divorce. Cette fille a dû raconter l'histoire du pigeon et du message à l'une de ses mégères de voisines. Et l'on ne va pas détailler ce qui est arrivé à Saber au poste de police. Le commissaire, lorsqu'il invente l'histoire, recommande à ses hommes de le traiter comme il faut et prévient la sécurité d'État. La sécurité d'État le recommande particulièrement le commissaire et prévient le ministre. Le ministre recommande la sécurité d'État et s'adresse à la présidence. Le président convoque une réunion ministérielle d'urgence. Et voilà ce à quoi ils sont parvenus. Vous me demanderez comment je sais ce qu'ils ont décidé. Je vous répondrai que je ne sais pas, mais que ce n'est pas difficile à deviner. Après deux nuits et deux jours au poste, Saber cède. Au départ, il disait que la lettre était codée et qu'il n'y voyait ni queue ni tête. Il avoue maintenant que le message, Dieu nous en garde, faisait partie d'un plan terroriste dont je ne pourrais pas vous parler ici. Si la nouvelle de cette cellule terroriste se répand, ce sera une calamité. Mais si on recommande ce dénommé Saber et si on le traite comme il faut, encore deux jours, il nous mènera à eux. Mais la chose n'est pas certaine, votre honneur. Il faut crever l'abcès. On ramasse les pigeons et les éleveurs et on casse les volières. Comment faire sans cela sans éveiller les rumeurs, la presse, les chaînes satellitaires? Mais non, la presse nous aidera, les gens aussi.
Comment?
Nous allons faire une descente en règle pour ramasser les pigeons et leurs propriétaires et démolir les volières. Puis le lendemain, Son Excellence, le ministre de la Santé, fera une déclaration au nom de l'Organisation mondiale de la Santé à propos d'une maladie découverte chez les pigeons. Une maladie très contagieuse, Dieu nous en préserve, qui se transmet aux humains et qui rend aveugle la nuit comme les pigeons. D'accord?
C'est parfait, votre honneur.
Ainsi, les gens seront de notre côté et nous aiderons le peuple au service de l'État. Et que fait-on des terroristes éleveurs de pigeons que nous aurons capturés? La déclaration du ministre de la Santé dira « Pour la santé et la sécurité de nos concitoyens, une quarantaine sanitaire sera imposée à toutes les personnes en contact avec les pigeons jusqu'à nouvel ordre. Toutes les dépenses inhérentes aux analyses médicales et aux soins des personnes atteintes seront prises en charge par l'État. Puis, pendant leur rétention, on les trie et on les interroge à notre aise. Mais comment être sûr que nous allons ramasser tous les pigeons? On fait les descentes de nuit. Les pigeons ne volent pas la nuit. Et celui qui est en train de cacher des pigeons, ses voisins le dénoncera. Ça tient la route. C'est parfait. Demain matin, les volières et leurs propriétaires sont localisés discrètement. Et la nuit, à leur hache, les descentes commenceront dans tout le pays. Le lendemain, on commence la campagne de purification, l'exécution, le tri et l'interrogation. Mardi, en revenant de son lycée, Ahmed, le fils d'Abou Zakaria, le tourneur, est monté voir sa volière sur le toit de la maison comme tous les jours. Une passion héritée de son oncle Zaki, le savetier, paix à son âme. Il ne savait pas que ce serait la dernière fois et que les pigeons lui prendraient la lumière de ses yeux.
Alors, un poème maintenant de Mustapha Ibrahim, qui est l'un des jeunes, très jeunes poètes, chroniqueurs de la Révolution, les plus intéressants. Et quand je l'ai appelé, on va travailler ensemble, j'espère, il m'a dit, je lui ai dit qu'on avait traduit pour un colloque interne, comme ça, son poème en anglais. Il m'a dit, il connaît un peu l'anglais, il m'a dit anonyme, il m'a dit anonymous. C'était le mot auquel il pensait pour son poème. Et donc on l'a traduit plusieurs personnes ont aidé. Nabil a fini par faire la version définitive
française
de Fulani el Fulani. Fulani el Fulani, c'est un tel. Si tu dis. Fils d'un tel, tu dis. Tu prends les formulaires et tu mets Fulani el Fulani. Un tel, comme ça. Voilà. Et donc, lui a intitulé son poème Fulani el Fulani. Mustafa Brahimi.
Comment s'appelait-il déjà? Celui qui était à mes côtés ce jour-là, quand ils ont commencé à tirer. Celui dont je ne connais pas le nom, que j'ai toujours appelé cousin, et voilà quoi. Celui qui m'a laissé son sandwich cette nuit-là, quand il a vu que j'ai chanté, le ventre creux. Celui dont je ne me souviens pas du visage. Et celui qui t'a fait entrer sur la place. Celui qui m'a fouillé en souriant. Celui qui demandait, il va vraiment partir. Celui qui disait, bonne route. Quand nous avons dit, on en a ras-le-bol, on s'en va. Le taxi qui a refusé que je paye quand j'ai dit que j'allais à la manif. Celui qui déclarait, il abdiquera demain. Nous fêterons et danserons toute la nuit. Celui qui me passait les bouteilles, puis les fermait une fois remplies de gasoil. Celui qui, en buvant, m'a demandé une gorgée. Celui dont le visage était constellé d'éclats de verre. Celui qu'on n'a pas vu à la télé, mais dont la voix était au cœur de la foule. Celui qui est rentré pour manger, se boucher. Puis celui-là, perdu, au milieu de la masse. Et l'homme qui imbibait mon kéfier de vinaigre et m'a porté quand une balle m'a transpercé. Celui qui est mort ce jour-là, une dette de sang lui est due. Celui qui lui a sucé le sang, ce fils de machin, doit payer.
Et enfin, on a travaillé indépendamment de ce spectacle, le cabaret-là. On a travaillé sur des témoignages. Et le premier témoignage était le témoignage d'une femme dont le fils de 17 ans, qui revenait d'un cours de français à Haoundéa, au sud de Gizeh, près du Caire, se tenait sur le pont pour regarder flamber le poste de police. Et un tireur d'élite, officier de police, l'a tué d'une balle dans le foie. Et on sait qui c'est, on connaît son nom, mais la mère refuse de le citer, d'en citer le nom, parce qu'elle sait qu'ils vont dire qu'il était en congé ce jour-là. Donc, elle porte plainte contre le ministre, sur Moubarak, le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur et le poste de police. Donc, on a travaillé sur ce texte, on a enregistré la femme. On a travaillé sur le texte, on a retravaillé, et puis l'actrice est allée la rencontrer, et on a continué à travailler, à raccourcir, à réorganiser un peu le texte, et on l'a beaucoup joué. Et la semaine prochaine, le 28, on va dans le même coin, à Badrachin, qui est l'ancienne Memphis, enfin... On va jouer ça en souvenir du garçon. Et un mois plus tard, on va faire la noce de son petit frère. Et on a décidé de continuer à travailler sur des témoignages. Et donc, une amie sociologue nous avait raconté, et a raconté dans le cadre d'un film qui se fait sur le conte, sur Scheherazade, comme parabole, sur le conte dans le Moyen-Orient, Turquie, en Égypte, et qui s'est transformé en un film un peu sur les histoires du changement dans la région. Cette sociologue a raconté la terrible histoire de sa journée passée devant la morgue de l'hôpital d'Alexandrie le 29 janvier pendant la Révolution. Et on a donc l'actrice qui joue cette qui dit, je ne sais pas si on se dit jouer ou quoi, mais qui travaille ce texte, l'a traduit de l'anglais, parce que ça a été enregistré en anglais pour ce film, et l'a travaillé dans son propre arabe parlé. Et puis, Ali Abou Salam, la sociologue, l'a écouté deux fois, elle a réagi fortement, émotivement, comme ça, elle a ajouté des détails, on l'a retravaillé. Et ça, c'est la version actuelle. Et on va ajouter trois témoignages. Un témoignage d'une... On a là déjà un témoignage d'un officier d'armée, très ambigu comme ça, très drôle d'un certain côté, absurde. Le témoignage d'un supporter de football, ils ont joué un rôle important de la Révolution, les Ultras. Et d'un homme de main qui passait de la police à l'armée. Comme ça. Donc on aura cinq témoignages et on en fera un spectacle qu'on donnera au mois de septembre. On a décidé ça en travaillant, c'est-à-dire au départ c'était le désir de témoigner pour Ahmed, le garçon de Hamdeya. Ensuite c'était travailler sur celui de Ali Moussalam. Et quand on l'a donné dans le cadre d'un colloque à Alexandrie de Hakaya, du mouvement Hakaya, c'est-à-dire conte au pluriel en jordanien, c'est un grand projet sur le conte dans le monde arabe et avec des partenaires en France et au Danemark, mais essentiellement un projet arabe. Quand on a donné les trois témoignages à la file comme ça, on nous a demandé de les compléter et de venir les jouer dans plusieurs événements, festival de Amman, du conte, qui a lieu au mois de septembre prochain. Donc, de nouveau, Nabil a traduit ce texte, ça a été révisé, tout sort de la presse, là, tout est frais, comme du pain frais, comme ça, et Brigitte a accepté de le lire.
C'est le texte de Dalia.
Témoignage
d'Alia, oui. Voilà. Alia Moussala.
Ce qui est arrivé, c'est que nous sommes allés aux morgues d'Alexandrie. En fait, nous avons essayé de savoir où ils se trouvaient, combien étaient décédés. Le jour d'avant était le 29 janvier. Nous avons entendu parler des morgues de l'université. Alors, nous y sommes allés. Mais ils ont refusé catégoriquement de nous laisser entrer. On ne voulait pas entrer. Je n'avais aucune intention d'entrer car je voulais me détacher et mettre de la distance entre moi et ce qui se passait. Et lorsqu'on a demandé au responsable du lieu « Combien il y a de cadavres ? S'il peut nous donner leur nom ?» Il a répondu « Ce sont des informations qu'il n'est pas autorisé de donner. » Ils nous ont dit d'aller demander au directeur de l'hôpital. Nous avons fait le tour de l'hôpital. Par erreur, nous sommes entrés dans une pièce où nous croyions le trouver. Et nous avons trouvé des blessés graves. Il y avait un homme dont le doigt était tordu à 90 degrés, comme ça, et qui pendait. Un autre était perforé, comme par des coups de feu, des drames et des mascaras. Des personnes ne s'en occupent. Quelle bassesse. Personne ne les avait secourus depuis la veille. Les infirmières voulaient nous virer et ont appelé les médecins pour nous mettre dehors. Nous avons fait une chose utile. Nous avons commencé à les interviewer. Alors le directeur de l'hôpital s'est inquiété et a envoyé des médecins pour les soigner. Et soudain, tout a été résolu. Mais il n'a rien voulu dire à propos de la morgue. Il nous a envoyés à quelqu'un d'autre. On s'est retrouvés ballottés d'une personne à une autre, alors nous avons décidé d'aller à la morgue. Mais là, non plus. Nous n'avons rien pu obtenir. J'ai décidé de questionner toutes les familles qui attendaient à la porte de la morgue pour avoir une idée. Qui était à l'intérieur? Combien? Quel âge? J'ai parlé avec 7 ou 8 familles, parmi lesquelles il y avait une dame, à qui j'ai demandé « Avez-vous quelqu'un à l'intérieur ?» Elle m'a dit « Oui, mon fils de 30 ans. » Il revenait de la mosquée près de la gare. Elle avait les yeux exorbités et tremblait. Il rentrait à la maison et lorsqu'il est passé par la manif, il a aperçu un ami tombé à terre. Il est allé le secourir et on lui a tiré dessus, par derrière. Il a été touché à la tête. Elle ne cessait de demander pourquoi on nous tire dessus. Parce qu'il est allé secourir son ami. Son fils s'appelait Mohamed Osman Abdel Fattah. Il y avait une autre femme. Lorsque je lui ai demandé qui avait-elle à l'intérieur, elle m'a répondu « Ma sœur, décédée d'un cancer. Je ne pouvais pas la laisser. Je suis restée un peu avec elle. Je ne pouvais pas me lever comme ça. Je voulais lui porter autant d'attention qu'aux parents de martyrs. C'était moralement épuisant. Puis il y avait une femme portant une tunique noire et voilée. Avez-vous quelqu'un à l'intérieur ? Oui, mon frère, Mohamed Saïd. Il a pris des balles en caoutchouc à la tête, au visage et au torse. Il était ferronnier et avait 6 enfants. Pourquoi est-ce que l'on meurt et que ses enfants deviennent orphelins ? Parce qu'on descend dire son opinion ? Il avait 43 ans. Elle ne cessait de demander pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Il y avait un groupe de 2 femmes et des hommes. Avez-vous quelqu'un à l'intérieur ? Oui, Khaled Mohamed Abdelkader. Il a pris une balle à l'arrière de la tête. Il était assis à un café à Mancheya pendant le couvre-feu. Un officier est venu. Il lui a demandé de rentrer, lui et ses amis. Mais il l'a demandé grossièrement. Et Khaled avait le sang chaud et ils se sont disputés. Et l'officier l'a tué. Khaled avait 45 ans. En m'éloignant, ils m'ont rappelé. Ils m'ont précisé que Khaled était comptable. Ils insistaient. Comptable, pas voyou ou bien autre chose. J'ai senti que c'était important. Il y avait 2 hommes debout près de la porte, jouxtant l'entrée principale de la chambre froide. Ils m'ont dit « Nous avons Mostafa Chaban. » Il avait 25 ans. Il a pris une balle dans le ventre pendant qu'il manifestait à Mancheya. L'un m'a dit qu'il allait se marier après-demain. L'autre l'a coupé. Tu veux dire, aujourd'hui ? Nous sommes samedi. Nous allions les voir, aujourd'hui. Puis il s'est tapé les paumes l'une contre l'autre en disant « Il n'y a de pouvoir et de puissance qu'en Dieu. » Puis a dit aux gardiens qui ne voulaient pas les laisser entrer « Jusque-là, il n'y a que des hommes et nous patientons. Mais si les femmes arrivent, personne ne te dégagera de leur colère. À toi de voir. » J'étais accompagnée par un collègue de Human Rights Watch. Il évitait de se mettre en avant pour que personne ne pense qu'il y avait un étranger qui voulait s'introduire. Pourtant, à ce moment-là, il n'y avait pas de méfiance vis-à-vis des étrangers. À ce moment-là, on voulait que tout le monde sache ce qui se passait. Mon collègue m'a suggéré de provoquer un problème entre le responsable et les parents des victimes pour qu'ils parviennent à entrer. Mais j'ai senti qu'ainsi, ce serait une exploitation de leurs sentiments. J'ai tenté de rediscuter avec le responsable, mais rien à faire. Il persistait à ne donner aucune information. J'ai commencé à crier « Pourquoi faites-vous ça ?» Les gens se sont approchés, ont commencé à hurler « Qui veux-tu protéger ? Pourquoi tu ne veux rien nous dire ? Pourquoi tu ne veux rien lui dire ? Pourquoi on ne peut pas les voir ?» Et il y en avait un qui ne cessait de clamer « Qui protégez-vous ? Vous ne savez donc pas que ce gouvernement que vous protégez va s'écrouler ? Et quand il s'écroulera, il n'y aura plus personne pour vous protéger. Tu n'as pas compris que c'est une révolution, le régime s'effondre. » Le responsable a soudain pris peur et a lancé comme un défi « Bon, celui qui veut savoir quelque chose n'a qu'à entrer voir par lui-même. » Il me regardait fixement. « Allez les gars, entrons voir. » Et ils sont entrés. J'ai dit à mon collègue qu'il pouvait entrer, mais il n'avait pas besoin de traduction, la situation était claire, il y est allé. Le jeune homme qui clamait, puis un autre, se sont mis à hurler. « Elle aussi, il faut qu'elle entre voir elle-même. » Un autre est sorti pour me prendre en me disant « Il faut que tu vois toi-même. Tu ne peux pas oublier, il faut que tu vois de tes propres yeux. » Je suis entrée. C'était une petite pièce où gisaient 13 cadavres. étaient posés sur les lits les uns à côté des autres de façon aléatoire. Je ne voyais que des pieds propres. On y avait attaché leurs noms. Puis il a commencé à enlever les draps qui le couvraient, un à un. Il a dit « Celui-ci est Mohamed Hassan. Il avait 26 ans. Regarde son visage. Regarde. » Il y en avait qui étaient bien amochés, qui n'étaient pas morts par balle. De cadavre en cadavre, je ne cessais de me répéter « Je ne les connais pas, mais c'est mon travail. Tous ceux-là sont des cadavres, ce ne sont pas des âmes. » Je cherchais un indice me prouvant qu'ils avaient encore de la vie. Mais lorsque j'ai vu leur bouche ouverte, j'ai su que leur âme les avait bien quittés. Je me souviens du premier. Il ressemblait beaucoup à mon frère. Mon frère avait la peau blanche et les cheveux noirs comme lui. Puis il en a découvert un autre. Et moi, je continuais à me dire « Et alors ?» Normal, ces gens ne sont pas là, ce sont juste des corps. Ils ne sont pas là. J'essayais de me calmer. Il a enlevé ce qui couvrait un jeune homme. Lorsque je l'ai aperçu, je fus choquée car lui aussi avait une grande ressemblance avec mon frère. Mon frère a 26 ans et on n'arrivait pas à le joindre hier. Il était dans l'affrontement de Kasr el-Nil et les communications étaient coupées. Il est parti tôt le matin et n'est rentré que tard. Bien après minuit. Nous étions inquiets qu'il lui soit arrivé quelque chose. Tous les jeunes ici avaient son âge. Alors lorsque nous avons dévisagé le deuxième cadavre, je n'étais pas seulement effrayée par la ressemblance, mais j'étais effrayée parce qu'il est possible que j'aie imaginé la ressemblance. Cela m'a profondément secouée. Et j'essayais de me tenir, de me dire que je vais bien, que cela ne me regarde pas. Concentre-toi sur les pieds, les orteils. Ce n'est pas Mohamed. Mohamed est à la maison. Ce n'est pas Mohamed. Mohamed est à la maison. Ce n'est pas Mohamed. Mohamed est à la maison. J'ai commencé à pleurer. Je ne crois pas avoir jamais pleuré ainsi de ma vie. La raison n'était pas dans une chose qui m'a peinée et qui m'a fait pleurer. Je sentais que je tremblais de l'intérieur. C'était un autre niveau de tristesse. Je sentais que j'hallucinais. Je sentais que les pleurs venaient de l'intérieur. En fait, je ne sais pas d'où viennent les pleurs exactement. Mais j'ai le sentiment qu'habituellement, ils viennent de la gorge. Mais cette fois, ils venaient de là. Je tentais de remuer la tête pour lui montrer que je l'entendais. Je ne parviens pas à maîtriser mes pleurs, mais je t'entends, j'entends leurs noms, leurs âges. J'entends comment ils sont morts, je regarde leur visage et je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas, je n'oublierai pas. Lui aussi a commencé à pleurer. Ses paroles devenaient incompréhensibles tellement il pleurait, mais il continuait à dévisager les cadavres. Et soudain, tous ceux qui nous entouraient se sont mis à pleurer, eux aussi. Et tout à coup, tout devenait blanc, je voyais tout ce qui arrivait, mais comme si j'entendais du brouillage, et je n'entendais que le son de mes pleurs. Le lieu était comme englouti dans quelque chose de plus grand que la tristesse, une oppression. Ils étaient tous très jeunes, et je le regardais essayant de reconnaître tous les corps, et lui aussi pleurait. Les gens autour de nous pleuraient comme ils sont jeunes, comme ils sont présents, comme ils sont morts. Mais je l'ai dit, je n'entendais pas distinctement. Puis l'une des femmes que j'avais rencontrées dehors a commencé à me tirer par le bras. Elle était un peu replète et les yeux bien ronds. La majorité des mères des martyrs à qui j'ai parlé avaient les yeux très grands ouverts au début, comme une hystérie refoulée. Elle m'a dit « Viens, je vais te montrer mon fils, viens, je vais te montrer Mohamed, viens, viens juste, viens !» Elle était calme et souriante. Elle ne pleurait pas du tout. Elle insistait en disant « Viens avec moi, viens voir mon fils Mohamed » et a commencé à tapoter sur sa main. Elle a découvert son visage et s'est mise à me dire « Regarde comme il est beau, regarde comme il est gracieux, n'est-ce pas comme un astre ?» Puis elle a commencé à dire « Lève-toi mon chéri, réveille-toi » et a commencé à le secouer. Réveille-toi, montre-lui comme tu es beau, réveille-toi, et fais-lui entendre ta belle voix. Réveille-toi, je suis ta mère, mon chéri, tu m'aimes, n'est-ce pas? Si tu m'aimes, réveille-toi, et fais-lui entendre combien ta voix est mélodieuse. J'ai essayé de l'attirer pour l'éloigner. Elle continuait à me dire, attends, attends, il va se réveiller, attends juste une seconde, sûrement une seule seconde, réveille-toi, n'est-ce pas moi ta mère de qui tu t'inquiètes toujours? Elle est restée ainsi, et les gens essayaient de l'éloigner. Il y avait quelqu'un qui l'attirait. Alors je lui ai dit, ton fils est mort, martyr, et son sang n'aura pas été versé pour rien. Je n'ai pas cru que j'ai pu dire ça. D'abord, j'ignorais s'il était martyr ou non. Parce que si ce n'était pas une révolution, alors il n'est pas martyr. Rien n'était clair ce 29 janvier. Et puis, qu'est-ce qui m'a fait dire que son sang ne sera jamais perdu? Aucune idée si j'allais vivre jusqu'à la fin de ce jour. Je ne savais pas si je n'allais pas être arrêtée, ni comment tout cela finirait. J'ignorais si on serait bombardé de grenades ou tué par balles. Comment dire une chose pareille? Elle aussi a été choquée et s'est mise à répéter « martyr, martyr ». Elle a répété le mot, mais aucun son ne sortait. J'ai senti qu'elle n'avait pas encore envisagé qu'il était mort. Pourtant, à l'extérieur, elle m'avait dit qu'il était mort. Mais elle était encore dans la phase de refus. Et moi, je l'ai affrontée avec une chose qu'elle n'était pas prête à affronter. De plus, je lui ai promis une chose et je ne pouvais garantir qu'elle se réalise. Ensuite, quelqu'un l'a fait sortir. Elle continuait à dire « martyr, martyr ». Je souhaitais que la terre se fende et m'avale. Les gens commençaient à sortir de la pièce. Puis le jeune homme qui m'avait fait entrer s'est mis à hurler. Alexandrie n'oubliera pas. C'était une révolte de jeunes, une révolte de colère. Mais maintenant, ce sera la révolte du peuple. Aujourd'hui, chaque personne à Alexandrie a perdu quelqu'un. Il y a un mort dans chaque maison d'Alexandrie. Alexandrie n'oubliera pas. Alexandrie n'oubliera pas. Alexandrie n'oubliera pas. Puis, tous, nous nous sommes mis à scander « Abba, Abba Hosni Moubarak !» Et ils ont commencé à sortir les cadavres. Mais moi, je n'avais rien. Je ne pouvais rien faire d'autre que leur promettre de ne pas oublier. Je n'étais pas sûre que la révolution aboutirait. Je ne le savais pas. Et je ne sais toujours pas.